Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolo Orsi.
Le paddock RMC, le rendez-vous des passionnés de Formule 1, c'est tous les lundis sur rmcsport.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. Grand Prix d'Italie exceptionnel à Monza avec une victoire de la Scuderia et de Charles Leclerc. On va bien évidemment débriefer cette course. On va vous présenter le team du paddock RMC aujourd'hui. Le stratège de l'équipe, celui qui façonne tout, c'est bien évidemment Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Salut Nico, bonjour à tous.
Il revient dans le paddock RMC à l'image d'un Flavio Briatore qui revient en Formule 1. C'est Alex Caldi. Salut Alex.
On m'a comparé à lui, dis donc. Bonjour.
Écoute, c'est tout ce que j'avais sur la main, on improvise. J'ai le sommaire qui a sauté, donc là je fais tout à l'instinct, les gars. Et puis, il enchaîne les podcasts. C'est un petit peu un Magnussen du paddock RMC, un Hülkenberg, Louis Gerbier. Salut Louis.
Bah ouais, parfait, je vais être suspendu le prochain podcast.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, d'ailleurs, il faut qu'on en parle.
Salut à tous.
Course exceptionnelle, on le disait, à Monza, avec une victoire Ferrari. Il s'est passé énormément de choses. Donc, sans plus attendre, je vous rappelle quand même de liker le podcast, de le partager, de nous mettre une petite note sur les plateformes. C'est super important pour faire remonter le paddock en haut des téléchargements, même si vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Jean-Luc, il s'est passé énormément de choses et on va commencer par vous récapituler ce Grand Prix d'Italie exceptionnel.
Les feux rouges s'allument à l'extinction des feux. C'est le départ. Lando Norris qui n'est jamais parvenu pour le moment à conserver l'avantage lorsqu'il avait la pole. Oscar Piastri qui essaie de s'imposer. Il est passé également et des problèmes pour Norris.
Encore. Ça fait beaucoup là, non?
À la sortie, à l'accélération de la chicane, ça profite à Charles Leclerc qui s'empare de la deuxième position. Le dernier tour pour Charles Leclerc. Il a maintenant 5 km à parcourir aux commandes de cette Ferrari et qui rend les tifosi totalement hystériques là. Plus de 335 000 personnes sur les 3 jours sur ce tracé historique de Monza. Il négocie la première variante del Rettifilo, la deuxième, la variante della Roggia. Du délire dans les tribunes maintenant. Charles Leclerc va peut-être décrocher la 7e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, une des plus belles, sinon la plus belle après celle de Monaco les derniers mètres. Maintenant pour Charles Leclerc, oui il va le faire, 5 ans après sa victoire en 2019, Charles Leclerc vainqueur.
Exceptionnel, exceptionnelle victoire de Charles Leclerc qui est si belle parce qu'elle était pas trop espérée, hein, on va le dire. Hein, donc forcément, elle a décuplé le bonheur des tifosi. Vous entendez toutes ces scènes de liesse. On va récapituler le classement de cette course parce qu'il s'est passé énormément de choses à Monza. Charles Leclerc qui s'impose avec 2 secondes 664 d'avance sur Oscar Piastri et Lando Norris qui manque une nouvelle fois le coche. On aura le temps de revenir sur la stratégie mise en place par McLaren. Quatrième, Carlos Sainz, qui avait quelques regrets de ne pas monter sur ce podium. Cinquième, Lewis Hamilton, futur pilote Ferrari, qui a pu voir ce que c'était qu'une victoire Ferrari à Monza. Bon, il en a déjà connu par le passé, mais là, il a été un peu touché par tout ça. Max Verstappen, grand battu du jour. Sixième, 40 secondes, limite 38 secondes précisément, hein, du vainqueur Charles Leclerc. George Russell est septième, Sergio Perez huitième, Alex Albon neuvième, et c'est Kevin Magnussen sur sa qui prend les points de la 10e place au classement des pilotes. Max Verstappen n'a plus que 62 points d'avance sur Lando Norris, qui aurait peut-être pu se rattraper encore un petit peu plus. Charles Leclerc revient avec 217 points, à moins de 100 points de Verstappen. Piastri est 4e au classement, et c'est surtout au classement des constructeurs que tout se resserre, puisqu'il n'y a plus que 6 points d'écart entre Red Bull et McLaren qui a pris 34 points sur cette course, alors que Red Bull n'en a pris que 12. Ça n'a jamais été aussi serré. On vit une saison de maboule, les amis, en Formule 1. Jean-Luc, avant de revenir sur tout ce qui se passe, les incidences au classement, la victoire de Leclerc dans ce Grand Prix d'Italie, je le disais un peu en présentant tout ça, ce qui est beau en fait, c'est on ne s'attendait pas, même s'il y avait des innovations sur la voiture, même s'il y avait un setup un peu différent, on ne s'attendait quand même pas à voir Leclerc triompher à Monza.
Absolument, Nico. Écoute, elle est historique, hein, cette victoire. Je l'évoquais pendant le direct, donc 5 années après avoir décroché déjà une victoire à Monza en 2019, une semaine seulement après avoir décroché la première victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Mais c'était à Spa-Francorchamps, vous vous en souvenez tous, hein, dans des conditions absolument tragiques, après le décès, l'accident mortel d'Antoine Hubert la veille. Donc Charles n'avait pas le cœur à célébrer ça. Et même à Monza, on sentait qu'il y avait un petit peu de retenue. Il a goûté, il a pris tout ce qu'il a pu avec cette marée rouge, hein, qui envahit la piste, qui est terriblement impressionnante. Comme il l'a dit, je ne m'attendais pas à ce que la deuxième fois ce soit aussi fort que la première. Eh bien si, ça l'a été. Peut-être avait-il l'esprit justement libéré, n'avait-il pas ces tragiques événements en mémoire. Et puis il a été là, hein, il a fait le boulot remarquablement, comme il l'avait dit, mais à un degré moindre évidemment, après son dernier podium, hein, Hollande. Il ne s'attendait pas à monter sur le podium, ben là, il ne s'attendait pas à gagner non plus, parce que les McLaren étaient manifestement plus rapides que les Ferrari. Seulement voilà, bon, on va revenir dans le détail comme tu dis, c'est une victoire historique. Et puis 7 victoires en Grand Prix, ça commence à compter. Moi je dis qu'il a déjà gagné sa saison, quoi qu'il arrive, hein, maintenant Charles.
Bah on va l'écouter, Charles Leclerc, parce que c'est vrai qu'il a plutôt bien choisi ses courses, hein, cette année pour gagner. Monaco, Monza, c'est pas mal.
C'est des sensations qui sont uniques. Entre Monaco et Monza, c'était vraiment les deux courses qui m'ont fait rêver depuis tout petit. Donc s'il y en avait deux à choisir, je pouvais pas rêver mieux. Mais bon, c'est beaucoup plus que deux courses une saison. Et elle a été faite de bas et de haut. Mais je dois dire que dans les dernières courses, on a plutôt bien bossé. En tant que team, on a amené des upgrades ici qui ont plutôt bien fonctionné. Ça veut pas forcément dire qu'on jouera la gagne tout le temps. Mais en tout cas, ça nous a aidé à gagner cette course aujourd'hui. Et ouais, non, ça fait plaisir. Je pensais que la première fois allait être plus spéciale. Enfin, je savais pas bien sûr si une deuxième fois arriverait un jour. Mais je peux confirmer que c'est toujours aussi spécial. Et surtout avec tous les fans, les tifosi qui en piste, c'est juste exceptionnel.
Ouais, parce qu'ils étaient 20 000, hein, quand même, 20 000 à venir acclamer Charles Leclerc au micro de nos confrères de Canal+. Alex, il faut revenir sur cette stratégie mise en place par Frédéric Vasseur, les ingénieurs de Charles Leclerc, tout le team Ferrari qui a parfaitement géré les pneus et qui a su profiter de sa connaissance exceptionnelle, la Scuderia, de cette piste de Monza pour l'emporter, hein.
Ah oui, clairement. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup avec cette victoire de Charles Leclerc, c'est que ce n'est pas la meilleure voiture qui a gagné, c'est le meilleur pilote, et ce n'est pas la meilleure équipe qui a... Enfin, ce n'est pas l'équipe qui a la meilleure voiture, du moins, qui a gagné, c'est la voiture qui a été la plus intelligente. Parce que je ne suis pas d'accord quand les gens disent justement que Ferrari avait la meilleure voiture aujourd'hui. C'est faux, c'est McLaren qui avait la meilleure voiture, mais c'est McLaren qui n'a pas su gérer. Ferrari a été tellement consistant, tellement intelligent, et c'est une victoire réellement de la Scuderia tout entière. C'est un travail qui a été réalisé sur plusieurs semaines en amont. On n'est pas arrivé dans ce week-end de Grand Prix avec l'espoir de gagner. Les upgrades qui ont été amenés ont été chirurgicales, cliniques, et à l'image de Charles Leclerc qui a été sur une consistance remarquable sur le dernier relais où il a accepté justement la charge de prendre une stratégie à un arrêt. Je pense que peu de pilotes, du moins, auraient, même aucun pilote parmi les leaders a osé tenter ça justement. Quand on prend l'exemple justement de McLaren, ils ont fait des tours de qualification en se battant entre eux, justement, entre Lando Norris et Oscar Piastri, quand Charles Leclerc était juste derrière, plus intelligent avec la Scuderia, en disant bon bah nous on va rester, on va attendre et on va aller voir justement perdre cette victoire, et nous on va être plus intelligent. Et en fait c'est ça, c'est de voir que Ferrari a été dans l'intelligence, et c'est une chose qui, je pense, avant Frédéric Vasseur, on était dans le mal pour avoir ce genre de choses là. Exemple, Mattia Binotto qui était présent d'ailleurs. Et également, Maurizio Arrivabene aussi par le passé. Et ce que j'aime beaucoup dans cette victoire, c'est que c'est une victoire qui a été construite sur plusieurs mois, réellement sur plusieurs mois, par rapport aussi à la victoire à Monaco, où derrière, ça a été une chute, on va dire ça ainsi, de la Scuderia Ferrari. Et derrière, il y a eu une reconstruction, une compréhension par rapport à quelles erreurs ont été faites par rapport aux précédentes upgrades qui ont été amenées mais qui n'ont pas fonctionné. Là, on a été clinique, chirurgical, en ayant appris des erreurs du passé pour arriver justement à cette victoire à Monza qui était lourde de conséquences, bien sûr, sentimentalement.
Non, et puis les gars, il y a une prise de risque incroyable, Louis, sur cette course-là. Parce que, ok, tu décides de partir sur une stratégie à un arrêt. Mais si ça se passe mal, si tu sens qu'en dur, tu tiens pas. Parce que là, Frédéric Vasseur, après la course, il dit après 10 tours en hard, ouais, on sait qu'on peut tenir. Mais si ça se passe mal et que c'est un fiasco, tu te trous totalement à la maison à Monza, tu prends le feu quand même. Ouais. Donc la prise de risque, Louis, elle est énorme. Hein.
Ouais, la prise de risque est énorme. Après, Ferrari, ils en sont pas à un fiasco près. Hein. Mais non, sur ce Grand Prix là, c'est clair qu'en fait tu as un resurfaçage de la piste à la base, donc déjà tu as beaucoup d'inconnus, et ensuite la fameuse stratégie de Ferrari, comme le dit Vasseur, au bout de 15 tours elle est décidée. Les autres, à demi-mot, ils t'expliquent que Ferrari c'est pas des génies non plus, hein. C'est qu'eux ils auraient bien voulu la faire le 1 arrêt, mais c'est qu'ils ont pas pu en fait. Donc ça veut aussi dire que sur la voiture Ferrari tu dégrades moins que sur les autres et que ça te permet au bout d'un moment de réussir à faire qu'un arrêt. Alors après, Alex l'a dit, hein, les autres, ils ne se sont pas aidés entre eux, les deux McLaren. Peut-être que si ils avaient joué, on va dire, comme Ferrari, tranquille dès le début, ils auraient pu le tenir. Mais la grosse victoire de Ferrari, elle est aussi des ingés, en plus de Charles qui fait une super course. C'est parce que leur voiture maintenant, qui était leur point faible l'année dernière, elle dégrade beaucoup moins et ça leur évite de faire un arrêt. Et derrière, ils sont 6 secondes devant une voiture qui est, comme le disaient Alex et Jean-Luc, objectivement meilleure que la leur, quoi. Donc c'est trop bien. En plus, c'est Monza. Donc s'il y a un Grand Prix à gagner, voilà, c'est la folie. Hein.
Il a un truc, Charles, Jean-Luc, quand même, c'est qu'il sait se nourrir un petit peu de tout ça. C'est vrai que pendant longtemps, on attendait sa première victoire à Monaco. Ça y est, il a eu ce déclic-là, gagné à la maison. Et là, il a été aussi porté par l'ambiance à Monza. Parce que c'est une vraie victoire de pilote, hein, Jean-Luc, celle-là.
Ah ben complètement, écoute, il faut savoir gérer les pneumatiques maintenant, tu sais, en Formule 1, c'est la clé, hein, c'est la clé de tout. Alors comme viennent de l'expliquer bien sûr très justement Alex et Louis, effectivement, les deux autres sont partis sur une stratégie à deux arrêts. Ils ont compris très vite, puisqu'il y a eu des échanges avec les ingénieurs, que ça ne tiendrait pas de toute façon pour passer sur un, puisque le pneu avant gauche, c'est lui qui souffre le plus, était en train de se dégrader totalement, et donc c'était absolument injouable. Donc il a fallu que Charles gère. Alors il a plus de métier quand même que ses deux jeunes camarades, hein. Il faut quand même le rappeler aussi, il a près de 140 Grands Prix maintenant à son compteur, et puis il a eu l'habitude d'exploiter une machine qui était inférieure. Là, un petit peu le paradoxe, c'est que les McLaren sont tellement supérieurs sur la piste intrinsèquement, comme on dit toujours, il faudrait la mettre entre les mains de Leclerc précisément, ou de Verstappen, cette McLaren, pour voir vraiment ce qu'elle veut donner. Alors je suis pas en train de dire que les deux autres sont des mauvais, hein, c'est pas ça, mais sur la gestion sur une course avec des pneumatiques délicats, etc., et ben ils ont encore un petit peu à apprendre. Et puis comme ils sont arsouillés tous les deux, comme on l'a vu, et on va en reparler évidemment, ben c'est clair que ça les a pas aidés à préserver les pneumatiques, hein. Donc pour récupérer les fruits qui tombent de l'arbre, ben il faut être au pied, et Charles, il était au pied, et voilà.
Et pourtant les gars, pourtant Alex, quand tu l'entends après les qualifs, Charles, bah, il est pas positif. Alors il a un truc, Charles Leclerc, c'est que quand il est face aux médias et tout ça, il dit toujours la vérité. Et tu sens qu'après les qualifs, bon, ça va être très dur, quoi. Limite, tu te dis, oh, bah, c'est mort pour Ferrari. Bah, et limite, on se dit des fois que ça peut impacter peut-être ses performances. Et au final, bon, non, quand tu vois la course de ce week-end. Mais c'est vrai qu'ils étaient très défaitistes après les qualifs.
Défaitistes parce que la Scuderia Ferrari, à l'inverse d'effectivement d'il y a quelques années, Ferrari misait beaucoup sur les qualifications et après le rythme de course était défaillant. Là maintenant, c'était plutôt l'inverse. Donc je comprends qu'il y a une sorte de défaitisme après la séance de qualification, mais rapidement, je pense que le samedi soir, ils ont compris qu'il y avait un énorme coup à jouer, notamment parce que Ferrari a fait un énorme travail durant l'hiver pour justement devenir maître au niveau de la dégradation des pneumatiques. Et sur une piste comme Monza qui a été réasphaltée, où il y a eu beaucoup d'erreurs d'ailleurs, au-delà même d'André Kimontonelli qui est très très jeune durant la FP1, mais tout le monde a fait des erreurs. Kevin Magnussen, même Verstappen a fait quelques erreurs durant les séances d'essai libre. Tout ça pour dire que justement Ferrari avait conscience, je pense, le samedi soir, qu'il y avait réellement quelque chose à faire au niveau de la dégradation pneumatique. Et puis surtout, c'est une construction par rapport à Monza, qui est un circuit et un grand prix objectif pour la Scuderia, qui on voit justement, on parle quelques grands prix auparavant, à quel point ils ont été plus forts. On voit à Zandvoort, ils ont terminé sur le podium. En Belgique, ils ont terminé sur le podium. Je crois aussi qu'il y a eu une quatrième place en Hongrie, ce qui montrait justement à quel point Charles Leclerc recommençait à reprendre de la confiance dans une essai 24 qui était quelque peu malade avant. Maintenant, elle est beaucoup moins malade. Et maintenant, on a trouvé surtout la Scuderia Ferrari qui était maître enfin, qui retrouvait le fait d'être maître de son destin avec cet essai 24.
Moi, je veux qu'on parle aussi un peu de l'ambiance. Alors peut-être que Jean-Luc, ça, tu vas pouvoir m'en parler mieux que personne parce que tu as vécu ces Grands Prix à Monza. Je ne sais pas si tu as déjà vécu des victoires de Ferrari à Monza, j'imagine que oui. Toute cette passion, on avait vécu ça avec Leclerc à Monaco, mais c'était différent. Mais là, c'est un truc de dingue quand même, quand il y a une Ferrari qui s'impose à Monza.
Ah bah écoute, tu sais, l'expression qu'utilisent pas mal de sportifs maintenant quand il leur arrive quelque chose de formidable, c'est « je n'ai pas les mots ». Bah je vais quand même les trouver parce qu'on est là pour ça. Écoute, c'est absolument inimaginable. Parce que c'est à la fois une ferveur comme seuls les Italiens, j'ose le dire, sont capables de la générer. C'est-à-dire que c'est spontané, c'est joyeux, c'est jamais agressif, tu vois. C'est vraiment, j'allais presque dire bon enfant, mais bon enfant, ça veut dire un peu cool, un peu calme. Non, c'est plus que ça. C'est envahissant, ça te met les poils, je peux pas te dire mieux. Et là, effectivement, ils soutiennent la Ferrari dans les bons comme dans les mauvais moments. Moi, je cite toujours cette anecdote, je vais vous la refaire, hein, avec Patrick Tambay, très longtemps après qu'il ait été pilote Ferrari. Je rappelle qu'il a gagné deux grands prix pour eux, l'un à Imola, malheureusement pas à Monza, mais c'était déjà pas mal, hein, un an après, ouais, après Gilles Villeneuve. On allait dans des restos quand on allait sur place, effectivement, pour commenter les grands prix. Et puis, bon, bah, discrètement, réservé, on mangeait dans un coin, et puis voilà. Et à chaque fois, je dis bien, au moment de présenter la note, le patron venait en personne, il faisait signer à Patrick, il disait « Non, monsieur Tambay ». Donc, nous étions invités. Donc, et ça, plusieurs dizaines d'années après. C'est-à-dire que non, la ferveur italienne, elle est là, elle est présente, elle sera toujours présente. Et c'est rassurant quand je pense que là aussi, on s'est posé la question de savoir s'il fallait maintenir ce Grand Prix à Monza pour de sordides questions économiques, évidemment, comme d'habitude. Mais oui, il faut le maintenir. Alors là, le circuit, évidemment, a beaucoup évolué, hein. C'est les aménagements autour. Bon, on a resurfacé, comme vous l'avez évoqué. Et c'est vrai que c'est ça qui a posé problème, parce que ce revêtement très foncé, il garde la chaleur. On avait des températures de plus de 50 degrés, et c'est ça qui a perturbé complètement les prévisions des ingénieurs. Et là aussi, malgré justement les centaines d'ingénieurs et les milliers de capteurs sur les voitures, ben on ne peut pas savoir ce qui va se passer. L'an dernier, tout le monde s'était arrêté une fois et ça s'était passé correctement. Ben cette année, c'était plutôt deux, sauf les Ferrari, c'est ça qui est génial. Ben la Formule 1, heureusement, tout n'est pas prévisible, hein, sinon ce ne serait pas drôle.
Et c'est ce qui fait que cette saison, elle est totalement zinzin. Louis, bon, la Scuderia Ferrari prend 37 points sur ce Grand Prix. Red Bull en prend que 12. Pour refermer un peu et clôturer le chapitre Ferrari, ils sont à 39 points de Red Bull, mine de rien. Alors McLaren prouve que c'est le team pour l'instant qui domine, mais ils sont encore dans le match, Ferrari, pour le classement constructeur et le championnat.
Ouais, bah évidemment, comme à chaque fois après une victoire, tu sais, on commence à se dire est-ce qu'ils sont pas repartis, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je vois ce que tu veux dire, mais j'y crois pas trop quand même pour autant.
Moi, j'y crois. Hein.
Je suis plus. Tu es normand, non ?
Ouais. Non, mais je vois l'idée, mais je suis pas hyper convaincu. Non, parce que pour moi, tu vois, c'est, enfin, comme chaque année, ils amènent un package, on va dire, à Monza. Là, il y a une super course. C'est super bien géré de bout en bout. Mais on voit aussi quand même qu'ils ne sont clairement pas première voiture et que derrière, McLaren, s'ils arrêtent de... C'est le problème aussi, s'ils mangent la feuille tous les week-ends, tout peut arriver. Mais il y a peut-être un moment où ils vont se mettre au diapason. Je pensais, la semaine dernière, je vous avais dit, ça y est, Lando Norris, il est lancé, il va arrêter de manger la feuille. Bon, ils ont recommencé. Bon, il n'a pas tout seul cette fois, il s'est bien fait aider parce que Piastri, on en reparlera. Piastri, je ne sais pas si c'était hyper malin. Mais non, pour Ferrari, moi, je pense qu'ils vont... Ils vont peut-être revenir un peu dans le jeu, mais ils vont rester au mieux deuxième force. Au mieux, je dirais même
Alex,
troisième.
Alex, t'y crois, toi ?
J'y crois, parce que quand je vois McLaren, et bien sûr, on va y venir très vite au sujet McLaren, mais quand je vois McLaren absolument mauvais dans la gestion alors qu'ils ont la meilleure voiture, et pour moi, c'est du gâchis. McLaren est en train de gâcher littéralement sa saison et en train de gâcher les chances de Lando Norris de prendre le titre de champion du monde pilote. Et même aux constructeurs, ça va commencer à devenir compliqué parce qu'au-delà de rattraper Red Bull, parce que Red Bull va se faire dépasser de toute façon parce qu'ils sont pires que McLaren, mais surtout en termes de performance et en termes de gestion d'écurie. Mais quand tu vois que McLaren a du mal et gâche ses opportunités, ils laissent leurs pilotes s'user totalement alors que McLaren devait remporter ce Grand Prix d'Italie.
Sans manquer
de respect à Charles Leclerc, mais ceux qui devaient remplacer, justement, ceux qui devaient gagner ce Grand Prix d'Italie, c'était McLaren, un doublé totalement assuré, et ça devait être sécurisé. Mais non, ils ont voulu gâcher. Et ça fait plusieurs fois que McLaren gâche ses opportunités, notamment en termes de stratégie. Et alors que de l'autre côté, maintenant, tu as Ferrari qui a trouver des solutions pour remettre ces C24 dans le droit chemin avec des grosses améliorations et des grosses upgrades qui ne sont pas essentiellement et uniquement donc justement pour ce Grand Prix d'Italie mais pour la suite de la saison. Bah oui, bah quand tu vois Charles Leclerc qui peut parfaitement gérer ses pneumatiques, quand tu vois Charles Leclerc qui peut parfaitement aussi gérer cet C24 et que la course de Carlos Sainz est très bonne aussi également, mais la problématique c'était au niveau de la position, au niveau de la piste où ça a été plus dramatique pour lui, il n'a pas pu prendre le podium. Bah tu vois une équipe qui est de nouveau prend son destin entre ses mains alors que McLaren lâche tout. Donc quand on voit que McLaren finalement oui rattrape Red Bull mais que Ferrari n'est plus qu'à 39 points si je me trompe pas de Red Bull, ah bah oui, Ferrari, il y a un titre constructeur qui est capable d'être allé remporter, surtout qu'il reste 8 Grands Prix, si je me trompe pas.
Bon, bah vous êtes pas d'accord, les ingénieurs, on va demander au patron.
patron.
On va demander au patron, il va trancher. Allez, patron, tranche.
Je vais pas faire le normand. Écoute, J'ai du mal à y croire. Pour être clair, je ne pense pas que la Scuderia soit en mesure de décrocher. On parle bien du titre constructeur ou du titre pilote, hein, pour être clair. Constructeur. Alors, je ne pense pas, parce que même s'ils ont les deux pilotes, et puis je vais vous faire rigoler, enfin je vais essayer en tout cas, puisque le prochain circuit, l'Azerbaïdjan, c'est la combinaison parfaite de Monaco plus Monza. C'est-à-dire deux longues lignes droites infernales où il faut rouler à 372 km/h pour avoir une chance d'y arriver, et puis les petits coins tordus pas possibles où tu peux pas passer, où la piste est horriblement étroite façon Monaco. Bon, donc a priori, les Ferrari vont écraser tout le reste puisqu'ils ont gagné Monaco et Monza. Ben non, évidemment, ce sont des qualités antinomiques, je dirais, et là, les McLaren devraient exceller puisqu'elles sont bonnes partout. Alors, donc, je pense qu'effectivement, ça va être très difficile pour la Scuderia de jouer le titre. En revanche, McLaren sur Red Bull, oui, j'y crois à 100%, si c'est la deuxième question sous-jacente, je l'ai déjà dit. Sincèrement, pour moi, Red Bull n'a plus que, malgré tout, un pilote et même Verstappen est largué complètement, le pauvre, il ne sait plus où il en est quand on va aborder le sujet, ils ne savent plus quoi faire. Et puis vous avez vu ce qui émane aussi de l'écurie, ils ne savent plus par où prendre le problème, ils ne comprennent pas pourquoi cette voiture qui était dominatrice, bah, on a quand même les résultats, hein. Il a quand même remporté 7 Grands Prix jusqu'à l'Espagne, Verstappen, c'est quand même pas rien, la moitié de la saison elle était devant, complètement devant, et puis ça s'est effondré, le mot est un peu fort, puisque quand même il n'était pas trop mal en Autriche, mais après ça s'est gâté, on va dire, et même lui n'arrive plus à en faire grand-chose là depuis 2-3 Grands Prix. Donc, Ferrari champion du monde, je n'y crois pas. Constructeur, McLaren, oui, bien sûr.
Bon, on va du coup aller sur McLaren.
Juste pour conclure, Nico, sur le sujet, pour le coup, je vois bien Ferrari passer Red Bull aussi, mais McLaren sera quand même devant. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire.
Voilà. C'est ça.
Tu penses que McLaren est plus fort que
Ferrari?
En fait,
c'est que
en termes de performance, il n'y a pas de doute sur
c'est
ça.
C'est ça, ce que dit Alex, c'est qu'il y a un moment, enfin, quand même, ils vont quand même réussir à mettre les carrés dans les carrés, les triangles dans les triangles.
On y va sur McLaren parce qu'on dit ouais, ça y est, au bout d'un moment, tout va s'aligner, ils ont la meilleure voiture, ça va le faire. N'empêche que ça le fait pas. Ça le fait pas, et que t'as encore Lando Norris qui loupe le coche, il reprend 8 points à Verstappen, mais quand tu vois les performances de ce week-end, tu te dis qu'il y avait vraiment une vraie grosse cargaison de points à aller chercher. T'as Piastri qui termine à 2 secondes 7, qui parle d'une vraie déception. Donc avant de débriefer la course de McLaren et McLaren qui n'arrive pas à gagner, parce que clairement c'est ça, on va écouter Lando Norris.
C'était un bon départ, mais je n'ai pas pris assez de risques dans le virage 4. On aurait facilement fait P1 et P2 sans avoir besoin de prendre des risques. J'ai l'impression que trop de risques ont été pris. Malgré une bonne course, on n'avait pas le rythme des Ferrari. On gère bien les pneus arrière, mais pas ceux à l'avant. C'était une course difficile, mais ils avaient une meilleure voiture que nous.
Ouais, il s'est raté une nouvelle fois.
C'est pas vrai.
Tout sauf vrai.
Bah alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que pour le coup, il prend un bon départ. Cette fois, il négocie bien le premier virage, on est d'accord. Bon, c'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième où il se trouve un petit peu. Mais Louis, du coup, on parlait de tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec McLaren? On a l'impression que, en fait, c'est une équipe qui ne sait pas gagner.
Ouais, clairement. Alors, au début de la saison, on a mis un peu les critiques sur Norris, que c'était Norris qui ne savait pas gagner. C'est peut-être, tu as raison, c'est peut-être un peu plus global que ça. Puisque là, fallait la gagner, celle-là. Il n'y a pas à tergiverser. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a des erreurs. Et les erreurs, hier, elles sont un peu multiples. Parce que tu as déjà, Norris et ses départs. Mais est-ce que stratégiquement, même globalement, en équipe, tu ne dois pas dire à Oscar de ne pas faire ce qu'il fait au. Tu vois, je te parle en tant que Zach Brown.
Au moins
les trois
premiers tours.
Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu fais perdre du temps à tes deux pilotes. Pourquoi? Pour en plus intercaler le Charles. C'est ça le pire, en fait. Mais moi, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas compris. Est-ce que c'est un peu de jeunesse, tu sais, quand tu. Ce qui était arrivé à Ocon ou Verstappen plus jeune, c'est qu'on te dit, ouais, quand t'es pilote de Formule 1, tu dois toujours dire que t'es le meilleur, tout gagner, machin, et que du coup, parfois, tu t'agis un peu bêtement par orgueil ou quoi, sans trop réfléchir, parce que là c'est, enfin, moi, je pense que c'est à Zach Brown ou à Stella de leur dire, là, c'était, fallait pas faire ça. Enfin, il y a un moment quand t'es quand même le chassé, quoi. T'es pas premier, donc tu dois quand même aller chasser Red Bull, et pour chasser Red Bull, il faut maximiser. Et maximiser, c'est vraiment un mot qui va pas avec McLaren cette année, hein. Il pourrait être dans les échappements de Red Bull s'ils arrêtaient de manger feuille un week-end sur deux, quoi.
Et quand tu les vois taper dans les pneus comme ça là en début de course, Alex,
excuse-moi,
tout ça,
mais... Mais en fait, bon, pourquoi moi je suis assez pas peut-être dur sur McLaren, mais parce que McLaren a une occasion en or d'aller regagner un titre constructeur, au-delà même du pilote, juste constructeur, ce qui n'est pas arrivé depuis la fin des années 90, si je ne me trompe pas, 98 ou 90, 98, il me semble, par rapport
c'est
à McLaren.
C'est ça, oui, c'est avec Hakkinen et Coulthard.
Voilà, et en fait, ils ont une occasion en or et ils sont en train de se saborder eux-mêmes. Quand on regarde quand même ce Grand Prix d'Italie, tu vois McLaren, qui, je le rappelle, a réellement la meilleure voiture, qui est complète, la plus polyvalente. Quand j'entends Lando Norris qui dit « Oui, Ferrari va la meilleure voiture », non, c'est faux. C'est que McLaren eux-mêmes se sont sabordés avec une mauvaise gestion et une mauvaise communication. Et quand je parle de communication, on fait un bond justement au Grand Prix de Hongrie. Quand il y a eu ce couac effectivement entre Lando Norris et donc la première victoire en carrière de Oscar Piastri, qui a été gâchée par ces erreurs de communication. On dit quand même à Lando Norris « Tu auras besoin de Oscar pour gagner ce titre ».
Exactement.
On lui dit ça. Et quand, justement, on arrive à ce Grand Prix d'Italie où, je rappelle, juste avant, il y avait 70 points d'écart entre Max Verstappen et, justement, Lando Norris. Lando Norris, il fait des erreurs. Bien sûr, c'est la première fois qu'il a entre ses mains une voiture capable d'aller remporter le titre mondial, même si la voiture est arrivée un petit peu tard dans la saison par rapport à Max Verstappen. Quand gagner un titre en soi dans le sport de haut niveau, c'est pas une succession de choses parfaites. On n'est pas toujours dans la perfection. Il y a des erreurs pour aller, justement, gagner. Et même quand on fait des erreurs, quand pour gagner, pour se relever, on a besoin d'une équipe. Et là, j'ai le sentiment que d'une, McLaren n'aide pas Lando Norris. Même quand il fait une erreur, on ne l'aide pas. Et quand on a besoin de maximiser justement par rapport à Lando Norris, qui est dans une course contre la montre, il faut le dire, pour aller chercher Max Verstappen, eh ben on ne l'aide pas. Pourquoi McLaren n'a pas dit à Oscar Piastri, on va d'une, pas tu vas éviter d'aller attaquer Lando Norris, et deuxièmement, on a besoin de toi pour justement permettre à Lando d'aller chercher Max Verstappen, et donc on va demander à swap les positions. Mais ça aurait pas été dramatique? Ça aurait réellement pas été dramatique parce que d'une, McLaren a besoin de points pour aller battre McLaren et en même pour aller battre Red Bull. Et au-delà de ça, Lando Norris a besoin de points pour aller chercher Verstappen. Et Verstappen, c'est l'un des meilleurs pilotes du monde, si ce n'est pas le meilleur pilote du monde aujourd'hui. Donc on a besoin de tout, de maximiser pour aller chercher celui qui reflète la perfection, ou du moins qui reflétait la perfection jusqu'à il y a quelques Grands Prix.
Est-ce que, Jean-Luc, tu vois McLaren se remettre un peu de tout ça? Parce qu'on a la sensation quand même que ça fait beaucoup depuis le début de saison. Beaucoup de courses où tu peux gérer différemment, tu peux aller chercher des gros points, tu peux t'imposer. Il y a des petites erreurs individuelles des pilotes, il y a des erreurs de stratégie. Alors, c'est pas grand-chose, mais au final, ça commence à faire beaucoup. Et puis, t'as la pression de la fin de saison qui arrive avec Alex en parler, Louis en parler. Cet enjeu quand même incroyable de retrouver un titre constructeur. On n'est pas loin de 30 ans après. Donc, est-ce que tu sens qu'ils peuvent inverser ce petit truc-là? C'est peut-être mental, je sais pas. C'est peut-être la peur de gagner, ce dont on parlait tout à l'heure. Ou tu crois que ça va être difficile?
Non, je crois qu'ils vont prendre maintenant les mesures fermes qui s'imposent, évidemment. Alors, je vais commencer par leur rendre hommage, sincèrement, parce que moi, j'aime le sport. Tu sais, ce vieux mot. J'aime bien quand les pilotes se battent.
C'est mais oui. Sport, oui.
Mais non, quand les pilotes se battent, quand il n'y a pas d'impératifs commerciaux et quand il n'y a pas... Bon, je le répète à l'envi, et c'est mon opinion, les plus terribles années de la Formule 1, d'ailleurs ça a été traduit par une désaffection, c'est les années Ferrari avec Schumacher, voilà. On peut aimer Schumacher, on s'en fout, mais les consignes d'équipe étaient tellement draconiennes, les autres pilotes devaient se coucher par terre et on l'a vu à plusieurs reprises. Bref, c'était lamentable, c'était tout sauf du sport. Bon, c'était du business. Là, on a deux pilotes, de jeunes pilotes, très agressifs, très ambitieux, qui se battent. Et pour le moment, tant au niveau de la direction générale de l'écurie de Brown, qu'au niveau, du terrain avec Stella, on les a laissés se battre. C'est formidable, c'est le sport et ça nous donne cette victoire, puisque Charles Leclerc, encore une fois, a été le plus intelligent et Ferrari aussi. Maintenant, je pense qu'on va arrêter de rigoler et je crois qu'effectivement... Alors, Norris, c'est un type gentil, pareil, il veut pas imposer, il veut pas demander l'aide de l'équipe, il dit « c'est à moi de gagner sur le terrain ». Il a parfaitement raison. C'est vrai que ce serait pas agréable, ni pour lui, ni pour personne d'ailleurs, de récupérer un titre qu'on l'aurait offert. Le sujet, c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'effectivement, chez McLaren, on dise « bon les gars, là, on a monopolisé la première ligne, on sait que c'est extrêmement délicat ces freinages à très haute vitesse avec des voitures instables, etc. Donc, on fait les 3-4 premiers tours, on laisse décanter, on voit ce qui se passe. Et puis, on verra en fin de course. Mais surtout, vous ne prenez pas de risque. Et c'est vrai que ce que disait Norris, il freinait un mètre plus tard à la variante della Roggia, la deuxième, les deux s'accrochaient. Hein. C'était les deux McLaren dans le bac à sable. Et alors là, Ferrari gagnait, mais le coude à la portière. Donc, effectivement, il va falloir qu'on impose des consignes. Et là, maintenant, ça doit être tout ou presque pour Norris. Et là, on va y arriver. Alors, le titre constructeur, encore une fois, pour moi, il est déjà dans la poche parce qu'ils sont deux pilotes avec la meilleure voiture, donc ils vont le faire. Maintenant, le titre pilote, Il faut que Norris bénéficie effectivement, comme tu le rappelais tout à l'heure, je crois que c'est Alex hein, ou Louis, je ne sais plus lequel des deux, parlait de la promesse qui lui avait été faite en Hongrie, suite d'ailleurs déjà à une méprise de McLaren. Enfin, ce n'est pas une erreur de com', c'est aussi une erreur stratégique et d'exécution. Donc maintenant, il faut qu'on aide Norris à remporter ce titre pilote qu'il mérite évidemment.
Mais est-ce que les gars, Lando Norris a l'étoffe d'un leader d'un futur champion du monde? Parce que on parle d'échanger les positions aussi. Peut-être que si McLaren ne le fait pas, alors moi je suis un peu d'accord avec Jean-Luc, je trouve que quand les pilotes se battent à la régulière, c'est beau, même si au niveau
bien sûr,
ça,
mais parfois
sportive,
ça peut être con aussi,
voilà.
Ça peut être
exactement, même si des fois,
les deux à la fois.
Même si des fois ça peut être un peu couillon, t'as raison, ce non-choix de McLaren, ça traduit pas un petit manque de confiance peut-être de l'équipe envers Lando Norris? Parce que quand t'as un numéro 1 qui est super fort, c'est rideau, tu sais que tu vas demander au gars de changer les positions. Je veux dire, chez Red Bull, il te pose pas la question quand c'est Perez qui est devant, tu vois ce que je veux dire.
Mais je pense pas que ça traduit un manque de confiance dans Lando Norris, parce que s'il y avait eu un manque de confiance en Lando Norris, McLaren aurait laissé partir Lando Norris chez Red Bull. Déjà, ça, on n'aurait pas renouvelé Lando Norris, on n'aurait pas donné pont, vents et marées pour justement garder Lando Norris et lui promettre justement qu'il pourra devenir champion du monde avec McLaren. Lando Norris a un talent absolument incroyable et ça avait été confirmé et révélé par le fait que McLaren ait mis directement Lando Norris dès sa première saison en Formule 1. Ils lui ont fait confiance et lui ont dit qu'on va construire un projet autour de toi. Et ce qui se réalise effectivement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Lando Norris joue le titre avec McLaren, comme ce qui lui avait été promis. Et il a montré que justement, certes il avait le talent, mais il a encore trop jeune et justement dans l'apprentissage de se battre déjà d'une contre Max Verstappen directement et au-delà de tout ça de se battre pour un titre mondial. Alors oui, il y a des erreurs et il y a eu cette réputation de choker, de quelqu'un qui s'est loupé, mais au-delà de ça, quand tu regardes par exemple à Zandvoort, dominateur parce qu'il a su se rattraper des erreurs qu'il avait pu faire et il a montré à quel point il était extrêmement fort et à quel point justement aux Pays-Bas il était sur une autre planète. Mais encore une fois, Lando Norris est friable comme Oscar Piastri est friable aussi également.
Mais la différence, Nico, c'est peut-être aussi que, tu vois, on dit souvent, tu dis à l'instant, Perez, on ne se pose pas la question, mais peut-être que la différence aussi, c'est que pour le coup, les deux, c'est un peu, ont toujours été amenés depuis le début comme deux cracks, tu vois ce que je veux dire? On a présenté Oscar un peu comme Lando, qui font partie de cette caste, alors peut-être pas dans le panier Verstappen-Schumacher, mais si dans celui juste en dessous, tu vois, comme un peu comme Leclerc ou Russell. Et que du coup, on se dit, Oscar, faut peut-être pas qu'on le grille trop vite, qu'on le range en tant que second pilote trop vite, il est très jeune, il est très fort. Tu vois, et je suis d'accord avec toi, je pense que ça a manqué de serrage de vis chez McLaren, peut-être en lui disant Oscar, t'auras le temps toi encore.
Mais
un
c'est
peu
ça.
Tour,
tu vois. Mais c'est ça.
Ton tour reviendra parce que en Hongrie, il tape dessus quoi, Norris, très fort.
Mais c'est ça que je voulais vous demander aussi, Jean-Luc. Mais j'ai l'impression que quand même pour aller chercher des titres, il faut qu'il y ait un numéro 1 un peu affirmé. Qu'il y ait un numéro 1. Et là, moi, le côté, on est une équipe avec des jeunes pilotes, plein de talents, un numéro 1 bis, il n'y a pas vraiment de statut. Moi, sportivement, je trouve ça génial.
C'est comme les gardiens en foot, ça marche jamais.
Ouais, c'est ça. Mais est-ce que pour gagner, tu peux le faire, Jean-Luc?
Alors oui, à une réserve près. On a vu Mercedes, mais qui ultra dominait la catégorie. Je vais vous rappeler évidemment Rosberg Hamilton cette saison 2016. Voilà. Alors on peut y arriver avec une voiture ultra dominatrice comme c'était le cas. Là vraiment, là il n'y avait pas photo. C'était quand même la période où si tu n'avais pas une Mercedes, tu ne gagnais pas. C'était là aussi, on peut parler de la période Red Bull avec Verstappen, mais là c'était terrible. Donc là on peut se permettre effectivement, pour reprendre McLaren, Senna Prost, évidemment. Regardez ce qu'il faisait dans les années 88-89. Il gagnait 15 Grands Prix sur 16 à l'époque. Donc, effectivement, on peut se le permettre. Là, je pense que, effectivement, les deux ont talent, pour être clair. On saura s'ils ont talent pour être champion du monde. On va le savoir rapidement, en tout cas, pour ce qui concerne Norris. Je pense qu'il l'a, évidemment. Je pense que Piastri l'a également. Maintenant, c'est un peu désordonné parce qu'on n'a pas dit à Piastri, écoute, tu ne vas pas mettre en péril justement la potentielle victoire de ton équipier, parce que c'est lui qui est en mesure de décrocher le titre cette année, c'est pas toi. Alors maintenant qu'il est les dents qui rayent le parquet, on l'a compris, bah déjà, rappelez-vous comment il est arrivé chez McLaren, hein, comment il est sorti de chez Alpine, oui. Il fallait en avoir, hein, si vous me permettez. Là, c'était pas sur la piste, fallait quand même faire le pari, surtout que McLaren n'avançait pas à ce moment-là. Mais il a dit, non, c'est le pari de l'avenir, bien conseillé évidemment, que, comme il se doit. Mais bon, il a fait le boulot. Donc, je pense que là, on va mettre de l'ordre dans la maison. Maintenant, c'est évident, on a la meilleure voiture, on est en mesure de décrocher les deux titres, et moi je pense que ça va être compliqué, encore une fois, difficile plus exactement, pour Norris de devancer Verstappen, parce que le vieux lion, j'allais dire, à 26 ans, il n'a pas encore jeté tout son jus. Hein. Là, il était au fond du trou à Monza, mais je pense qu'il va, il va ménager l'écart, et il va grappiller tout ce qu'il peut dans le bon sens du terme. Donc, il va falloir les rattraper, ces 62 points. Mais en revanche, c'est potentiellement, Norris a le talent, la volonté. Il faut qu'effectivement, l'écurie l'aide un peu.
Je rajouterais juste un point par rapport à pilote numéro 1, pilote numéro 2, c'est qu'en 2021, Verstappen avait eu ultra besoin de Sergio Pérez, pilote numéro 2, pour remporter le titre. Et parce que dans l'ère moderne de la Formule 1, il est impossible de gagner s'il n'y a pas un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 défini.
Rappelez-vous Ferrari qui perd face à Hamilton comme ça, une fois pour un petit point ou quelque chose comme ça.
McLaren aussi.
Voilà,
avec Alonso et avec Vettel.
Exactement, c'est souvent un attelage qui à la fin, tu sais que c'est un attelage qui te fera perdre des points. C'est presque mathématique parce que il en faut un qui se couche derrière l'autre, sinon tu ne peux pas maximiser.
Mais ça va être intéressant de voir en effet le comportement de McLaren sur le prochain Grand Prix en Azerbaïdjan là dans 15 jours pour voir s'il y a vraiment des décisions fortes qui sont prises. On va se pencher les gars aussi sur le cas Red Bull parce que là notre ami Max il est pas bien, Christian Horner est pas bien et je vous rappelle qu'il termine 6e. Je vous donne aussi un écart mais après le Grand Prix de Chine, au soir du Grand Prix de Chine, 5e épreuve de la saison, il y avait 99 points d'avance pour Red Bull sur McLaren. 11 courses plus tard, il n'y en a plus que 8. Donc c'est un petit effondrement quand même. On va écouter Max Verstappen avec nos confrères de Canal+ après la course.
On a juste fait une mauvaise course, sans rythme. On a aussi fait un mauvais arrêt. La stratégie n'était pas optimale. Pendant la majeure partie de la course, je n'ai pas pu rouler à fond car on avait un problème. Peu importe la stratégie, on aurait été P6. Mais même dans une mauvaise course, on doit maximiser la performance et ça n'a pas été le cas.
Ils sont plutôt lucides pour le coup, hein, puisque Christian Horner a fait un débrief de la course. Il a dit on était la quatrième voiture la plus performante aujourd'hui. Il faut absolument changer ça. On est dans un cercle vicieux. En gros, on n'y arrive pas. Jean-Luc, est-ce que c'est inquiétant? Alors tu nous disais, je pense que Verstappen va faire le taf. Voilà, le vieux lion, il sait maîtriser ça. Il va gérer son avance de 62 points. Mais, il y a un vrai débat quand même. Hein.
Ah ben c'est clair que là, il n'a pas la machine. De toute façon, je ne sais plus l'expression qu'il a utilisée, on est au stade 1 de l'alarme. C'est peut-être déjà le stade 2 là maintenant, parce que lui, ça fait un moment qu'il a tiré la sonnette et qu'il a dit attention, moi je donne le meilleur de moi-même et c'est ce que tout le monde pense et même un peu plus. Et je regardais ses temps en qualif là, lors des 3 Q1, Q2, Q3. On a vu que c'est en Q2 qu'il est parvenu à faire le meilleur temps absolu, mais ça ne l'aurait pas avancé sur la grille. Il a fait une 19.662, il n'a fait qu'une 20 et 22 millièmes, et il est resté donc à 4 dixièmes environ pour la Q3, mais de toute façon, ça ne l'avançait pas sur la grille, il serait resté à ce niveau-là. Donc, il y a un véritable souci, là, il peut faire tout ce qu'il peut, Verstappen, avec l'engin dont il dispose pour le moment, et bien, ça, il n'y parvient pas. Alors, encore une fois, il reste 8 Grands Prix, c'est une question de gestion, hein. Pour suite à tout ce qu'on vient de dire concernant McLaren et la non-gestion pour le moment de McLaren, eh bien, on ne lui a repris que 8 points. Ça aurait pu être beaucoup plus si on avait tout fait pour Norris. Eh bien, Norris l'emportait et Verstappen, je pense qu'il restait à cette place-là. Et le différentiel de points, c'était plus du tout la même histoire. Bon, le calcul est très simple. Il reste 8 courses, hein, 8 x 8, 64. Points. Voilà, sans parler des meilleurs tours, etc., et des sprints, voilà, à la louche. Hein. Donc, il lui reste 62 points à rattraper. Bien sûr que c'est tout à fait possible de reprendre 8 points par course à Verstappen pour Lando Norris, a fortiori si on l'aide. Donc, effectivement, ça va être difficile. Encore une fois, il va se débattre, hein, le bougre, et personne n'est à l'abri non plus d'un accrochage, comme on vient de l'évoquer, même entre équipiers, et puis d'une casse mécanique, parce qu'on aborde la dernière partie de la saison, et je peux vous dire, je l'avais déjà souligné, ce point, le règlement est ainsi fait, que dès qu'on va changer des éléments mécaniques majeurs, on va reculer sur la grille. Et ça peut quand même modifier beaucoup de choses.
Il y a quand même un signal fort, Alex. Mm-hmm. C'est que J'ai l'impression que pour la première fois de la saison, alors c'est peut-être pas le cas, hein, vous me dites si je me trompe, mais en tout cas, on a un Christian Horner qui prend la parole et qui n'est pas optimiste, vraiment pas. Et tu sens qu'ils perdent un petit peu la maîtrise du truc. Et c'est quand même assez symptomatique de ce qui se passe. Parce qu'en début de saison, quand il y a toutes les affaires un peu extra-sportives, ils gagnent, bon, tu sens qu'ils sont chahutés, il y a plein de choses qui se passent, il y a les rumeurs de départ de Verstappen chez Mercedes, il est très convoité, ok, mais les mecs, ils sont focus, ils sont performants, ça reste droit, personne ne s'exprime, voilà. Mais là, tu sens que même dans la com, ça commence à lâcher un petit peu. Et sportivement, tu restes sur 6 courses sans victoire, quand même.
Et surtout sur un enchaînement où McLaren est nettement supérieur par rapport à Red Bull. Et aujourd'hui, oui, tu peux dire que Red Bull est en train de chuter. Red Bull est en crise de performance. Et c'est même reconnu, comme tu l'as bien expliqué, par premièrement Christian Horner aujourd'hui. Mais déjà, quand tu lis Helmut Marko et quand tu lis aussi Pierre Vacher, qui est le directeur technique, qui a quand même dit une phrase qui est extrêmement forte, Pierre Vacher, en disant que justement le concept de la RB20 avait certainement touché son plafond. Donc si tu touches ton plafond, tu peux plus évoluer. Et aujourd'hui, il y a aussi un point qui est extrêmement important, et c'est quelque chose qu'on ne dit pas énormément, mais aujourd'hui McLaren a nettement plus de temps de développement, que ce soit virtuellement en CFD mais également en soufflerie, par rapport justement à Red Bull Racing. Et McLaren peut plus développer et continuer à améliorer sa machine de guerre qu'est la McLaren, alors que Red Bull a touché son plafond et aura du mal à se réaméliorer. Et en voyant aujourd'hui Verstappen, après du moins au sortir de ce Grand Prix d'Italie, dire ouvertement dans les médias que déjà d'une la voiture, elle est devenue inconduisible et que c'est un monstre. En 6 à 8 mois, c'est devenu
dire.
Un monstre. Et c'est ce qu'il a dit quand même, Max Verstappen. Mais... Donc quand ton meilleur pilote, qui est l'un des meilleurs pilotes aujourd'hui sur la grille, ose dire que la voiture qu'il pilote est inconduisible et que c'est un monstre, comment vous voulez que Red Bull puisse, derrière d'une, se trouver des solutions, se réinventer et dire aussi ouvertement, et c'est un point aussi qui est important, que Verstappen a, pour la première fois de la saison, a dit, dans les conditions actuelles, défendre les deux titres mondiaux, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est une reconnaissance de Red Bull d'une situation très difficile sportivement parlant, comme quoi aujourd'hui Red Bull ne peut pas défendre en tant que tel ses deux titres mondiaux.
Non, mais parce que Verstappen, lui, il termine à 38 secondes de Charles Leclerc. Je veux dire, c'est pas là, tu t'inclines, t'as 4 écuries qui se tirent la bourre, ça se joue à 5-6 secondes, t'es dans le match et tout ça, mais c'est un gouffre, 38 secondes.
Je rajouterais même d'ailleurs qu'il était plus proche de Fernando Alonso 11e que de Charles Leclerc 1er.
Eh oui.
Tiens, non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tu te remets au début de la saison, même pas au début de la saison, tu te remets il y a 3 mois. Bon, tu les sens un tout petit peu plus fébriles qu'avant, mais t'imagines pas ça. Après, bon, c'est déjà arrivé en F1, mais c'est vrai que quand tu le vis à chaque fois, tu te dis mais c'est dingue, le gars, ça fait 2 grands prix qu'il est à 30 secondes du leader, c'est fou. Mais surtout, en plus, hier, tu l'entends parler à la radio. À un moment, il leur dit oh les gars, ça serait pas mal si vous restiez avec moi là et tout. Enfin, il exprime un certain sentiment de solitude au volant de sa monoplace qui est assez étrange. Et t'as l'impression, en fait, vraiment cette sensation que tout se dérègle. Un peu, je sais pas si vous vous rappelez du film Rasta Rocket où on voit le boulon, tu vois, qui se défait comme
très
ça.
Très belle référence, j'aime beaucoup.
Et à la fin, le bobsleigh se retourne. Bah voilà, là on est tout proche pour Red Bull et ils vont bientôt se retourner avec le bobsleigh. La chance qu'ils ont quand même, c'est qu'ils ont un second pilote pour leur amener plein de points. Sergio Perez. Donc non, c'est vrai que dans la conjoncture actuelle, c'est ce qu'on disait en début.
Il a pas été trop
mauvais
sur ce coup-là.
Non, pour le coup, en plus, qu'il fait un Grand Prix.
Je vous invite à voir la photo après, à l'issue du Grand Prix, de Verstappen et Sergio Perez qui sont tous les deux en se regardant en disant qu'est-ce qu'on est devenu.
Ouais.
Non, ça mais attends, vite, hein. les gars, est-ce que Jean-Luc, est-ce que ça peut péter chez Red Bull? Parce que là t'es sur le point de rupture là, hein, on va pas se mentir.
Et puis New Way aussi, même plus avoir New Way pour leur ramener une voiture.
Bah non, je crois qu'il est un peu en vacances prolongées. Puis c'est pas un magicien non plus. Bah hein,
oui.
Une équipe. Quand on a parlé de ce fameux débriefing Zoom aussi, où Christian Horner a convoqué tout le staff et l'arrière-staff pour savoir ce qu'il faut faire. Et ce qui est sorti de ça, c'est que personne sait. En fait, ils savent même pas d'où ça vient. Et le souci, il est là. Ils en sont à reprendre le fond plat du début de saison. Je sais pas si vous l'avez lu aussi. Hein.
Ouais.
Donc ça devient pour voir où on a merdé, quoi. En gros, en se disant, mais qu'est-ce qu'on a raté comme marche? marche. Bah, je crois surtout que, et c'est la Formule 1, c'est les autres qui ont sacrément bien travaillé. On l'a évoqué longuement, McLaren, Ferrari et même Mercedes. Donc maintenant, c'est la quatrième écurie en termes de performance de la planète Formule 1. Et malgré tout son talent, bah Verstappen, il doit gérer 62 points. Maintenant, c'est l'obsession, hein, parce que bon, les deux sont liés, évidemment. Quand les pilotes marquent des points, ça vient aussi pour les constructeurs. Mais le fric, il est là, hein, il est dans le classement constructeur. Donc ça va être l'obsession. Et puis, vous avez eu raison de souligner aussi le fait qu'ils ont moins de temps de développement que les autres. Donc, ils ont moins de possibilités de rattraper le coup. Ben là, il va falloir gérer la crise. Hein. Alors oui, on est proche du crash. Je pense que 2025, bah, effectivement, en plus, toutes les places sont prises. Enfin, même si les contrats en Formule 1, ça ne vaut rien du tout. Je pense qu'effectivement, à moins d'un clash hein, qui peut toujours survenir, je pense que ça va pas trop bouger. Mais pour 2026, oui, il va se passer des trucs. Hein. Là, ça, c'est clair.
On parlait juste d'argent. J'ajoute juste que Red Bull ne veut plus taper dans son budget de cap la faute à Sergio Perez. C'est également qui a fait beaucoup de casse mécanique, qui a coûté beaucoup d'argent. Et c'est pour ça, justement, qu'à Monza, Red Bull n'a pas apporté d'aileron spécifique, justement, à Monza. Et regardez ce que ça a
fait. Ils ont mis des coups de cutter dans les ailerons.
Oui, oui. Ils ont mis une lame de rasoir à la place.
Alex, Louis, vous voyez le truc péter là? Parce que, pour l'instant, moi, Verstappen, bon, il te dit la voiture, elle est inconduisible, on a créé un monstre et tout ça. Mais je le trouve plutôt corpo. Bah, le mec, il a 62 points d'avance, donc il a quand même un titre à aller chercher, vous allez me dire. Il va pas mettre le feu maintenant. Mais, je te dis, s'il y a une petite catastrophe là à Bakou et tout ça, moi, je me dis que ça peut vraiment partir en sucette.
Alors,
hein.
Ouvertement, dans les médias, je ne pense pas que ça ne pètera avant jusqu'au moment où peut-être Lando Norris passera juste devant Max Verstappen. Et si ça arrive, mais tant que Lando Norris ne dépassera pas Max Verstappen, si ça arrive, ça ne pètera pas. Par contre, en interne, et en dehors de la place publique, ça pète déjà. Et je crois que c'est après la FP3, Max Verstappen comprend que pour la séance de qualification et pour la course, ça ne fonctionnera pas. Il parle de manière très violente quand même. On le voit avec ses mains et dans le body language envers Christian Horner en disant non, c'est pas possible, je peux pas, on peut rien faire, la voiture est inconduisible. Et donc ça pète en dehors des médias, du moins, mais en dehors de la place publique. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant de voir la suite de la saison, c'est comment justement, quand est-ce que ça pètera justement sur la place publique.
Je pense qu'on n'est pas, ça va péter encore pas tout de suite pour la simple et bonne raison qu'il va avoir un peu de loyauté quand même de se rappeler que c'est ces gens-là et cette voiture-là qui lui a offert deux titres.
Trois titres,
et que du coup il va peut-être avoir la décence de mettre quelques grands prix avant de sortir le lance-flamme. Oui, mais on sait qu'il aime bien le sortir.
Je suis pas trop d'accord avec ça parce que Max Verstappen est une personne et une personnalité sportive qui, quand ça ne va pas, le dit ouvertement, publiquement, justement, ça se voit à la radio. Et que j'aime bien dire ce terme, c'est l'un des meilleurs pilotes du monde, comme les Charles Leclerc et comme les Lewis Hamilton. Et chaque pilote qui veut justement aller chercher le Graal veut avoir les meilleurs moyens pour aller remporter justement le titre mondial. Pareil pour Hamilton, pareil justement pour Charles Leclerc. Et si ça ne va pas, ils vont penser à aller voir ailleurs. C'est naturel.
Ah oui, bah qu'il y pense.
L'équipe du paddock, on va jouer à un resto quand Jean-Luc revient là sur le sol français. Moi, je vous dis, il sort la sulfateuse avant la fin de saison. Je le sens, Max. Je le vois pas tenir. Après,
mais qu'est-ce que c'est sortir la sulfateuse?
Il doit terminer quand même sa saison.
Qu'on fasse ça avec un huissier, Nico. Est-ce que tu as essayé de nous enfiler pour qu'on te paye un resto?
Non, mais Jean-Luc, t'as raison. Je sais qu'il doit terminer sa saison. Oui, mais après, avec tout ce qu'il a connu, avec la perf surtout du début de saison, alors il va peut-être se bagarrer jusqu'au bout. C'est un immense champion. Mais tout ce qu'il a vécu aussi, les déceptions humaines, je pense que ça peut peser.
Mais c'est clair, mais enfin, il va se tenir, c'est un type intelligent, hein, évidemment, Verstappen, il a plu, et lui aussi, j'allais dire, il a 26 ans, mais il est vieux maintenant, il est en Formule 1 depuis 9 ans, donc il est vieux, il a du métier, et puis il connaît les règles, donc non, il ne va pas cracher dans la soupe, il ne l'a pas fait au moment de la crise, au moment du Horner Gate en début de saison, donc il ne va pas le faire maintenant, et puis il a besoin, encore une fois, de cette équipe avec qui il a son ingénieur, même si parfois il se frite un peu, même à la radio, mais il a besoin de tous les gens qu'il a autour de lui. Non, il va serrer les coudes. Maintenant, je suis d'accord, en fin de saison, ça peut péter. Oui, c'est-à-dire que s'il n'a pas la confiance dans l'équipe pour l'avenir, bah, son fameux contrat jusqu'en 2028, il va évidemment voler en éclats.
Bon, bah, je paierai le resto, j'ai compris.
Non, mais c'est le petit Kimi, du coup. Kimi Antonelli, il a déjà un crash à son actif. Et si Verstappen pète un câble, peut-être que Toto, il va lui dire de retourner au Simu. Qui sait?
C'est son fils adoptif. Ouais.
Oui, c'est son fils adoptif, exactement.
Ouais, bon, alors ça sera peut-être Russell qui aura aussi mieux.
Ah, ça
c'est peut-être ça, en fait, ouais.
Ça, on sait pas.
C'est drôle.
Les gars, le petit Punto Alpine, ça a été compliqué ce week-end hein, pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. 14e et 15e, je ne les ai pas donnés tout à l'heure dans le classement du Grand Prix. Ils ont terminé loin et on va écouter Esteban Ocon.
On a vraiment tout essayé, je pense, ce week-end. On a essayé hier pour la qualif d'essayer de faire le chrono avec les pneus usés pour voir si ça allait marcher mieux. On a essayé aussi pour cette course de faire deux stratégies différentes. Donc il va falloir qu'on s'assoie et qu'on regarde exactement quelle était la meilleure au final. Forcément, on perdait un petit peu de temps sur la fin, mais voilà, on a réussi à faire fonctionner le un-stop, ce que Pierre n'a pas réussi à faire de l'autre côté avec la stratégie opposée. Donc voilà, il faut qu'on regarde exactement ce qu'on aurait dû faire. Maintenant, c'était une nouvelle piste un peu pour tout le monde. Je pense que de mettre toutes les chances de notre côté, ça a été ce qu'on a essayé de faire.
Bon, bah dur hein, pour Alpine, les amis.
Oui, mais on peut s'y attendre à Monza. Non, mais on peut surtout s'y attendre à Monza, quoi. C'est...
Ouais.
Mmh. Ouais, bah.
T'as vu cette ambiance que t'as créée en parlant d'Alpine?
Ouais, là c'est plombé.
On a flingué le podcast en 45 secondes.
Plombé.
Mais alors ça prouve aussi un petit parallèle juste rapide, c'est que en Italie à Monza, on a quand même tous les tifosi qui soutiennent la Scuderia Ferrari. Il y a une ferveur autour de Ferrari immense, un amour immense. Et en France pour Alpine, bah c'est mort. Ouais. Voilà, parce que tout a été gâché par la direction de Renault.
Ouais. Alors d'ailleurs, je pense qu'on se fera un épisode 100% Alpine très rapidement, les amis, hein, pour parler de tout ce qui se passe. Mais on va pas s'éterniser, Jean-Luc, sur les perfs d'Alpine ce week-end. Voilà, on le sait, c'est la galère. T'as l'impression que même quand les pilotes tentent tout, les ingénieurs tentent tout au niveau stratégique, ils sont trop loin. Et voilà. Hein.
Bah oui, les pilotes, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Là, effectivement, il fallait tenter ce coup-là. Hein. Esteban était parti avec les durs et il les a quand même emmenés au 33e tour pour mettre les médiums. Et puis, bon, bah, Pierre, on l'a arrêté au 11e. Déjà, c'était très tôt. Hein, donc, on a compris que ça n'allait pas bien du tout. C'était quasiment la moitié de ce qui était prévu. Et puis après, bah, il a fait ce qu'il a pu. Non, ce qui est dramatique, effectivement, c'est à plus long terme et d'une manière plus globale. Alors, je vais vous faire, là aussi, j'essaie de rigoler. On inaugure un magnifique motorhome conçu par Philippe Stark, formidable, qui n'a pas dû coûter cher du tout, je vous rassure. Rien n'a coûté cher.
Non, puis en plus, Stark est pas connu pour pas coûter cher.
Bah, oui, pas coûter cher, bah, on le sait depuis longtemps. Non, mais c'est un type charmant, à part ça, et talentueux. Mais enfin, c'est du délire, quoi. On met tout dans le motorhome, mais rien dans les bagnoles. Ouais. C'est à pleurer.
Pareil avec la voiture Pantone.
Et puis on tue le moteur. Et là aussi, il faut rendre hommage aux gens de Viry. Il y en avait une centaine qui étaient à Monza. On n'en a pas parlé parce qu'ils n'ont pas foutu le bordel. Et ils avaient dit qu'ils ne le foutraient pas. Donc c'est tout, leur mérite, parce que dans ces cas-là, quand on va te piquer ton boulot et qu'on va te mettre dehors avec une main devant, une main derrière, il n'y a pas de quoi rigoler du tout. Donc c'est la fin de la Formule 1 en France, voilà, faut le dire. Enterrement de première classe, merci Monsieur Di Meo et merci.
Eh bien vous savez quoi, on va se faire un épisode sur ça la semaine prochaine, la fin de la F1 en France, on va le titrer comme ça même.
In memoriam.
Ouais, et on va tout faire pour vous amener un max d'infos sur ce qui se passe à Alpine, comment ça se passe, et notamment pour les salariés de Viry. Qu'est-ce qu'on retient d'autre sur ce Grand Prix? Tiens, une petite info quand même, on en parlait dans le sommaire, mais Kevin Magnussen suspendu en Azerbaïdjan, petit contact avec Pierre Gasly. Du coup, ce serait potentiellement Oliver Berman qui conduirait la Haas. Et est-ce que vous voulez revenir sur quelque chose en particulier d'autre sur cette course, les amis?
Mis à part les transferts avec Antonelli qui est officialisé tout de même.
On connaît le roster Mercedes pour la saison prochaine, Alex. Hein.
Ouais, on le connaît et c'est pas étonnant, si on s'y attendait. Toto Wolff a même concédé, alors est-ce que c'est de la langue de bois? Je le pense, mais qu'il avait décidé ça juste après, 10 minutes après que Hamilton lui ait dit je me barre chez Ferrari.
Bah voyons.
Ouais, on la connaît.
Lui, il n'est pas menteur du tout, Toto Wolff. Il dit toujours la vérité.
Non, mais c'est...
il avait créé une ligne directe pour appeler Verstappen, mais à part ça.
Oui, Verstappen, mais bon, il y a Antonelli qui était décidé depuis 10 minutes après.
Mais moi je vais vous dire, il avait prévu il y a 2 ans, il le savait il y a 2 ans.
Oui, oui. c'est toujours l'état de question, est-ce que ce sera trop tôt ou non, si on ne peut pas y répondre avant effectivement le début de la saison 2025 de Formule 1. C'est un immense pari, il faut quand même rappeler qu'il y a moins de 2 ans, il est champion d'Europe de karting, Andrea Kimi Antonelli, incroyable. Et il sera en Formule 1 l'année prochaine. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que ce sera trop tôt? Ça encore, c'est une question qui...
Ce sera trop tôt, tu veux dire?
Ce sera trop tôt, mais quand on dit que c'est le fils prodigue de Toto Wolff, oui, ça pour le coup, c'est le fils adoptif là, clairement.
Ce qui est assez marrant,
il va falloir qu'il le gère bien. Hein.
Ouais, parce que ce qui est assez marrant, Jean-Luc, c'est qu'il s'est quand même gaufré sur son premier tour là.
C'est caricatural et moi je vais pas du tout lui taper sur le casque. Le pauvre gamin, il a à peine 18 ans. Il y a quelques jours. jours, on le met dans la F1 en Italie, il est italien, t'imagines un peu. Ouais, bon, c'est le summum. Et il part comme une balle. Quand j'ai vu les premiers tours, j'ai dit oula, oula, il était tout en haut de la feuille des temps. Bon, il n'a pas bouclé le sixième, hein, il en a fait cinq. Ah, ok, il a été en tête de la feuille des temps. Et puis après, il a de la chance, il se met dans le mur de pneus, il se fait rien, il prend plus de 50 G. Ça aussi, c'est miraculeux. Je veux dire, tant mieux qu'il se fasse rien du tout. Il peut même rouler après en F2. Bon, pas très bien, mais il fait ce qu'il peut. Et puis Toto lui dit à la radio, mais t'en fais pas, tout va bien, c'est vrai, bon. Oui. Bah non, attends un peu, vieux. Laisse-le revenir au stand et puis parle-lui en tête à tête. Enfin,
c'est trop gros en fait.
C'est énorme.
Qui saute comme ça sur la radio. Et tu vois, là, on est tous unanimes à peu près. Enfin, vous l'êtes et les commentaires que j'ai entendus autour de lui ce week-end aussi. Et je trouve ça marrant parce que oui, évidemment, on va pas l'accabler. Mais je trouve ça marrant parce que parfois, des erreurs comme ça ou sur d'autres pilotes, ils vont en prendre plein la tête. Mais lui, il a une espèce d'immunité un peu. Je crois qu'on a tous envie en fait que ça marche pour lui et que l'histoire est belle, quoi. Et du coup, cette erreur, au lieu de prendre quelques critiques, tout le monde a tout de suite dit non, mais... c'est pas de sa faute, ça arrive à tout le monde.
Ah si, c'est de sa faute.
Oui, pour le coup, ça peut être que de sa faute.
C'est de sa faute, mais moi, je voudrais quand même vraiment.
C'était presque ça.
Trouver. Et s'il y en a dans le podcast qui veulent mettre des commentaires ou sur les réseaux, donnez-moi la raison de pourquoi Mercedes n'a pas de me dire à Antonelli, calme-toi, fais pas des tours qualifs deux minutes après avoir pris la voiture. C'est lui, ça. Antonelli, il y a rien à lui reprocher.
Parce que tu le vois sur son premier tour. Hein. Sur le premier tour, tu vois qu'il est chaud bouillant. Hein. Tu peux le recadrer direct. Hein.
Non, pour changer la cartographie.
Voilà, il est pas bien managé du tout. Je suis désolé de le dire une nouvelle fois. Au contraire, il faut le mettre au calme. Te mets pas la pression. Puis, alors pareil, spectaculairement, Toto qui vient se pencher, vous l'avez vu comme moi, quelques secondes. Faut pas faire ça. Il est dans sa bulle, le gamin. Tu lui dis tout ce que t'as à lui dire avant. Après, tu lui dis, il y a son papa qui est là, il y a tout. Non, mais on peut rien lui reprocher à lui. C'est normal ce qui se passe. Maintenant, faut pas que ça se reproduise au Mexique. Je crois que c'est au Mexique que c'est prévu, parce que là, ça deviendra un peu plus grave.
Est-ce que je peux parler d'une chose, Nico?
Tu peux, bien
transfert.
Évidemment.
Le dernier baquet de Sauber Audi, qui est toujours le baquet, on ne sait pas. Et on sait pas. Peut-être Gabriel Bortoletto ou Théo Pourchaire, en espérant ce qu'a dit Mattia Binotto, Théo Pourchaire, comme quoi Théo Pourchaire est bien sur la liste, c'est ce qu'il a révélé Mattia Binotto. Mais Bortoletto, des petites infos que j'ai vues, Bortoletto a quand même un petit point d'intérêt quand même, parce que pour 2025 du moins, il a le soutien de sponsors brésiliens, notamment avec l'apport de 8 millions auprès de Sauber,
ça peut aider.
Notamment avec la banque brésilienne BRB.
Donc, faut dire à Intermarché d'y aller là, envoyer des sous avec Théo là. Bon. 8 millions, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Donc voilà, à voir si ça peut se conclure. Mais ce dont je suis très heureux, du moins, c'est que vraiment il est à l'heure actuelle bien considéré par Mattia Binotto et Théo Pourchaire.
Il était là ce week-end.
Très bonne info.
Ouais. Et puis il avait bien roulé en Indy, hein, les quelques courses qu'il a fait en Indy.
Ah oui, c'était très bon, hein. Excellent.
Ah, il n'a pas démérité du tout, il ne connaissait rien.
Et il y a un petit ange parti trop tôt aussi, notre ami de Williams, qui s'est fait remplacer par Colapinto.
Très bon Colapinto,
qui a fait un super premier Grand Prix.
Parce que Logan Sargeant.
Ouais, Logan Sargeant qui est parti et qui se fait remplacer, qui est parti un peu, comment dire, c'était un peu inéluctable et un peu dans la différence presque, parce que tout le monde était résigné sur le fait que il était sûrement pas au niveau requis. Et là, Colapinto, premier très bon Grand Prix, pas très loin derrière Albon et tout, très propre, à voir.
Pourquoi et puis pas. Pilote argentin en F1, Jean-Luc, ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas vu. Hein.
Oui, depuis Gaston Mazzacane. Et lui, il n'avait pas laissé des traces dans les archives. Hein. C'était chez Prost en 2001. on ne peut pas dire. Mais avant, il y a eu un certain Juan Manuel Fangio, je ne sais pas si vous
voulez. Lui, c'était pas mal.
Vaguement.
Ouais, qui avait laissé des traces. Et puis, il y en a
Carlos
quand
Reutemann
même. Carlos Reutemann, exactement. Non, il y en a eu quand même. Il y a une grande tradition de sport automobile en Argentine.
Qui
non, ça fait plaisir. Et là, pour le coup, le gamin, 21 ans aussi, zéro faute, lui. Zéro faute, nickel, il termine 12e, il fait un beau parcours. Bah écoute, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut procéder. Hein. C'est sûr qu'il a 8 courses pour se faire les dents avant d'attaquer vraiment la première saison complète pour lui. C'est parfait, il faut continuer comme ça.
C'est prometteur. Les amis, merci beaucoup pour cet excellent débrief du paddock RMC. Et là, je fais pas mon Toto Wolf, je ne mens pas. On a la meilleure équipe de journalistes pour débriefer toutes les courses.
Ça fait plaisir de l'entendre.
C'est peut-être un petit peu de communication à la radio. Voilà, j'en fais peut-être un peu trop, mais vraiment, je le pense. Je fais pas mon
Toto. On rate pas un départ, en tout cas.
Bon, allez, c'est nous qui allons payer le resto. Du coup, ça va pas gagner.
Ouais, parce que j'étais en train de compter. Vous allez me coûter cher parce que je connais le coût de fourchette
d'un peu
chacun. J'essaie d'arrondir les angles.
Et puis quand on est invité en plus. Son attaque.
N'hésitez pas à nous mettre une petite note, bien évidemment, sur les réseaux sociaux aussi, à repartager tout le podcast, à mentionner Louis, Alex, à nous parler de Jean-Luc, à nous donner également les thématiques que vous souhaitez aborder. Je vous rappelle que le paddock RMC, c'est tous les lundis. La prochaine course, c'est dans 15 jours, mais donc du coup, dans une semaine, il y aura un épisode du paddock à ne pas manquer. Bye bye les gars, et salut à tous, bonne semaine.
Ciao.
Salut.
Le paddock RMC.